à tous. Et donc maintenant, on va présenter l'administration Office 365. Et on va commencer avant par une petite parenthèse sur les modèles d'identité Office 365. On a trois modèles d'identité dans Office 365. Le premier qu'on appelle identité cloud, qui ne nécessite pas de serveur sur site et qui consiste à avoir uniquement des identités dans le cloud. C'est un modèle qui est plutôt adapté aux entreprises qui n'ont pas déjà un annuaire sur site. Le deuxième modèle d'identité, c'est ce qu'on appelle l'identité synchronisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synchroniser les identités qui sont sur son annuaire sur site vers Office 365 et synchroniser aussi bien le login que le mot de passe de l'utilisateur.
Et du coup, comment on peut mettre en place ce type d'identité synchronisée ?
Sana, écoute, c'est très simple à mettre en place. Il suffit de déployer sur site un serveur de synchronisation qui s'appelle Azure AD Connect et qui permet de synchroniser ses identités Active Directory vers Office 365 et qui peut être aussi un contrôleur de domaine. Donc, il n'y a pas besoin forcément de rajouter un serveur supplémentaire.
D'accord, très bien. Et donc, la troisième identité ?
Le troisième modèle d'identité, c'est plutôt adapté aux grandes organisations, aux moyennes organisations, c'est l'identité fédérée. Donc ça permet d'avoir l'authentification unique, que l'utilisateur, à partir du moment où il est authentifié sur sa session, avec ses identifiants Active Directory, il est automatiquement authentifié aussi dans Office 365.
Oui, mais du coup, c'est quoi la différence entre l'identité fédérée et l'identité synchronisée ? Au final, c'est le même résultat ?
Au final, le résultat est presque semblable, mais la différence, c'est que dans le cas de l'identité fédérée, on a une seule identité, contrairement à l'identité synchronisée, où on a deux identités qui sont synchronisées, comme son nom l'indique.
Il y a peut-être également le coût de mise en place.
Oui, le coût de mise en place est beaucoup plus complexe, parce qu'il faut des serveurs supplémentaires, qui sont les serveurs ADFS, pour mettre en place l'authentification unique. Donc on a plusieurs serveurs supplémentaires à mettre en place. Et il y a aussi le coût de configuration qui est plus complexe que pour l'identité synchronisée.
Très bien, merci Mehdi. Et du coup, juste une recommandation justement pour nos partenaires qui s'adressent aux TPE-PME. Ce qu'on vous recommande du coup, c'est vraiment de vous orienter vers les deux premiers modèles d'identité, donc l'identité cloud et l'identité synchronisée, qui sont simples à mettre en œuvre et sans aucun coût supplémentaire. Voilà, et donc Mehdi, je pense qu'il est temps de passer à la démonstration.
Maintenant, on va voir en détail l'administration Office 365 à travers le portail Office 365. Pour commencer l'administration, c'est simple, il suffit de se connecter sur l'URL portal.office.com, ensuite de rentrer son login et son mot de passe administrateur. Et là, j'arrive sur le portail d'administration Office 365. Donc la première chose que je vois quand j'arrive sur le portail d'administration, c'est un tableau de bord qui va me résumer plusieurs informations. L'état d'intégrité des services pour voir si j'ai des services qui ont des problèmes ou est-ce que tous mes services n'ont aucun problème. S'il y a un service restauré par exemple, comme on le voit ici, ou un service dégradé sur Power BI comme on le voit ici. J'ai accès aussi à des raccourcis administrateurs qui permettent l'accès à des actions qui sont très utilisées par les administrateurs, comme la réinitialisation d'un mot de passe, l'ajout de nouveaux utilisateurs ou l'attribution des licences. Donc, quand je clique sur « Commencer la configuration », j'arrive sur une interface qui va m'accompagner pour configurer mon organisation Office 365. Donc, on commence par me demander « Est-ce que je veux copier des données ?» comme des messages électroniques, le calendrier, les contacts vers Office 365, parce que généralement, les clients qui arrivent sur Office 365, ils étaient avant sur un système de messagerie existant et ils veulent récupérer généralement leurs données. Donc si je clique sur « Oui », on me demande de spécifier mon système de messagerie actuel. Est-ce que c'est une version d'Exchange ou est-ce que c'est un système de messagerie tiers comme Lotus ou tout autre système IMAP. Ensuite, je vais spécifier mon nombre d'utilisateurs et je vais cliquer sur « Suivant ». Donc, l'étape suivante, c'est de vérifier mon domaine. C'est-à-dire que si j'ai un domaine personnel comme contozo.com, je vais pouvoir prouver à Microsoft que ce domaine m'appartient bien et ainsi pouvoir l'utiliser pour ma messagerie professionnelle ou pour Skype Entreprise.
Et du coup, comment se passe cette vérification?
Alors, la vérification est très simple. Office 365 nous demande de rajouter une entrée DNS sur notre fournisseur de DNS avec une valeur bien déterminée. Et une fois qu'on rajoute cette entrée, Microsoft peut vérifier qu'on est bien le propriétaire du domaine. Donc, très important, il faut avoir les droits d'administration chez son fournisseur DNS pour pouvoir rajouter cette entrée.
Et normalement, quand on fait cette vérification, après, donc ça se passe, la durée de l'opération se passe en quelques minutes
Oui, c'est très rapide. Au bout de quelques minutes, Microsoft peut vérifier que vous êtes bien propriétaire du domaine.
Très bien.
Une fois qu'on a vérifié le domaine, les étapes suivantes vont être d'ajouter des utilisateurs, d'obtenir les applications Office et enfin de copier les données du système professionnel existant vers Office 365. Donc ce wizard est très important pour vous accompagner lors de la configuration de votre organisation Office 365. Maintenant, on va revenir au portail d'administration pour voir toutes les autres options que nous offre ce portail. Et onglet très important, c'est l'onglet utilisateur. D'abord, dans les utilisateurs actifs, j'ai une vue sur tous mes utilisateurs qui existent dans mon organisation Office 365. Je peux très bien modifier l'affichage pour afficher uniquement une partie de ces utilisateurs. Par exemple, ici, j'ai une vue qui me permet d'afficher les utilisateurs qui ont une licence E3, ou je peux très bien afficher les utilisateurs qui n'ont pas de licence pour leur affecter une licence. Donc sur tous mes utilisateurs, quelles sont les actions que je peux faire? Je vais d'abord pouvoir rechercher un utilisateur particulier, comme l'utilisatrice Robin Count. Si je sélectionne Robin Count, j'ai accès à plusieurs raccourcis qui me permettent de réinitialiser son mot de passe, de modifier ses paramètres ou de l'ajouter à des groupes. Je peux voir aussi facilement quelles sont les licences qui lui sont attribuées pour lui supprimer ou ajouter des licences. Et je pourrais même suivre l'état de ses installations Office, étant donné, comme tu l'as dit Sana, chaque utilisateur qui a une licence Office 365 incluant de l'Office, il a le droit d'installer jusqu'à 5 périphériques. Robin et l'administrateur pourront suivre combien d'installations ont été déjà utilisées par un utilisateur donné.
Et juste une précision par rapport aux installations, effectivement c'est 5 copies sur PC ou Mac, plus 5 sur smartphone, plus 5 sur tablette.
Donc, exactement.
Ça fait pas mal de copies. Et juste pour revenir, je voudrais juste faire une remarque par rapport à la liste des utilisateurs. Tout à l'heure, tu avais parlé de la partie gestion d'identité et donc gestion des accès des utilisateurs. Et on remarque que dans la liste, il y a une colonne qui s'appelle État. Et donc état, et là on voit par exemple le type d'identité ou type de gestion d'identité qui est utilisé. Si on prend par exemple, il y a certains utilisateurs où il y a marqué qu'ils sont dans le cloud, donc ça veut dire qu'ils ont une identité qui existe uniquement dans Office 365, et on a certains qui sont marqués comme synchronisés avec Active Directory. Ça veut dire que moi, en tant qu'administrateur de mon AD local, je vais pouvoir gérer et modifier les paramètres de ces utilisateurs, et même les stratégies par exemple de mot de passe, ou stratégie de groupe via mon AD local pour cet utilisateur et pas sur Office 365.
Exactement, merci Sana. Pour ces utilisateurs qui sont synchronisés avec Active Directory comme Karine Anna ici, on ne pourra pas modifier ces paramètres à travers le portail Office 365, il faudra le faire sur l'Active Directory. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des utilisateurs. Donc comme on l'a dit dans les paramètres d'identité, on peut soit utiliser la synchronisation d'annuaire qui permet de faire le provisioning, mais on peut aussi créer des utilisateurs directement à partir du portail Office 365. Et là, j'ai deux choix. Soit j'ajoute des utilisateurs en bloc avec un fichier CSV, soit j'ajoute un seul utilisateur à la fois. Et pour ajouter un utilisateur, il suffit de spécifier son prénom, son nom d'utilisateur. Est-ce qu'il doit modifier son mot de passe la première fois qu'il se connecte? Et très important, lui affecter une licence pour qu'il puisse utiliser ses services. Dernière chose que je pourrais faire sur mes utilisateurs, c'est les supprimer. Si un utilisateur quitte l'entreprise, je peux le supprimer ici, ça supprime aussi ces données derrière. Et si je le supprime, il va aller directement dans une corbeille. Donc si j'ai fait une erreur, je peux aller dans utilisateur supprimer et restaurer cet utilisateur particulier très simplement. En cliquant ici sur restaurer les utilisateurs.
Par contre, il y a une durée pour restaurer cet utilisateur qui est de...
Cette durée est de 30 jours. Donc au bout de 30 jours, l'utilisateur est totalement supprimé avec ces données aussi. Dans les autres fonctions d'administration que je retrouve sur mon centre d'administration Office 365, je peux modifier le profil de mon entreprise pour spécifier son adresse, son code postal, la langue que je choisis pour mon organisation Office 365 aussi.
On peut également modifier le thème et le, on va dire le, par exemple la bannière du haut. Du portail Office 365 pour que ça reflète justement l'identité de mon entreprise.
Exactement, Sana. Et si on continue sur les fonctions de mon portail d'administration, donc j'ai des raccourcis ici pour accéder aux boîtes aux lettres partagées, aux salles de réunion, aux groupes. J'ai une vision sur les domaines. Si j'ai ajouté un domaine personnel, je pourrais le retrouver directement ici. Donc si je vais sur partie domaine, j'ai tous les domaines que j'ai essayé de rajouter, ceux pour qui la configuration n'a pas été démarrée et les autres où on a terminé la configuration, comme dans notre exemple ma belle entreprise.xyz. La partie facturation pour suivre ces différents abonnements et les dates d'expiration. Donc là, j'ai une vision sur tous mes abonnements. Les licences disponibles, les licences qui ont été affectées, la date d'expiration de mes différents abonnements pour prévoir en avance de renouveler ces abonnements. J'ai accès à plusieurs paramètres pour les services, que ce soit pour les sites, pour Skype Entreprise, pour Cortana, pour Office Online aussi. Tout ça, c'est des raccourcis vers des fonctions par lesquelles je vais pouvoir modifier mes services.
Sachant qu'il y a un paramètre qui est très important, qui s'appelle donc c'est les mises à jour. Ça permet justement, lorsque vous activez en fait cette partie, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle les first releases ou les dernières publications qui sont apparues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier des dernières nouveautés qui sont apparues dans les services Office 365. Et vous allez pouvoir les tester, soit les tester en amont, donc vous allez pouvoir sélectionner un groupe d'utilisateurs pour les tester, et puis ensuite vous pouvez le déployer pour le reste des utilisateurs, ou vous choisissez de directement le déployer pour tout le monde.
Exactement, merci pour cette précision, Sana. Et on a un onglet très très important pour que nos clients et nos partenaires puissent suivre tous les changements qui arrivent sur la plateforme, parce qu'Office 365, c'est un produit cloud et c'est un produit qui évolue très vite. Donc pour que nos clients ils soient au courant tout le temps des dernières fonctionnalités ou des modifications qu'ils doivent faire, on a le centre de messagerie qui liste toutes les communications que Microsoft envoie à ses clients concernant le service Office 365. Donc ces communications, je peux les organiser selon différentes catégories, soit les communications uniquement pour rester informé des dernières nouveautés, soit des communications qui concernent les modifications, soit des communications pour empêcher ou résoudre les problèmes. Donc si on s'intéresse aux communications pour rester informé sur les nouveautés, on voit ici par exemple que le 9 décembre, j'ai eu une communication qui m'informe que les groupes Office 365 maintenant supportent le e-discovery et d'autres fonctions de conformité. Donc ça, c'est complémentaire au blog Office 365. Dans le blog Office 365, on met toute notre roadmap et toutes les nouveautés. Le site roadmap aussi inclut ces différentes fonctionnalités. Et dans le centre de messagerie, ça permet d'avoir une vision au jour le jour quand la fonction est déployée chez nos clients. Pour la partie support, donc dès que votre client a un problème sur sa plateforme, il pourra facilement ouvrir un ticket support à partir du portail d'administration Office 365. Donc on a une vue d'ensemble sur tous les tickets déjà ouverts et on pourra aussi créer une nouvelle demande de service à partir d'ici. Créer une demande de service et dans cette demande, il faudra remplir différents champs pour spécifier exactement sur quel service on a un problème, sur quel outil et ainsi permettre à Microsoft d'analyser le problème le plus rapidement possible.
Et justement, Mehdi, en parlant de support, comment est-ce qu'un partenaire peut lui-même créer ce ticket et comment est-ce qu'il peut gérer, par exemple, les services Office 365 pour son client ?
Très bonne question, Sana. On a un portail d'administration qui permet l'administration déléguée. L'administration déléguée, c'est-à-dire, c'est le client qui va donner l'autorisation à son partenaire d'avoir accès à son portail d'administration et que ça soit le partenaire qui puisse gérer toutes ses fonctions à la place du client sans avoir besoin d'un compte supplémentaire sur l'organisation du client.
Du coup, sans consommer de licence sur le portail du client.
C'est exactement, il n'y a pas besoin de licence et on va voir tout de suite ce portail d'administration délégué ensemble. Alors, comment on fait pour activer ces fonctions d'administration déléguée ? La première chose à faire, c'est d'aller sur son centre de téléchargement de logiciels Microsoft Partner Network et il faut aller dans Microsoft Online Services. Et là, on a accès aux fonctionnalités d'administration déléguée. Et là, on a deux choix. Soit on active les fonctions d'administration déléguée sur un tenant existant, soit on les active sur un nouveau tenant. Donc moi, je les ai déjà activés sur mon tenant Office 365 et là, ça va me faire apparaître un nouvel onglet partenaire que je n'avais pas avant. En accédant à cet onglet partenaire, j'ai une interface graphique qui me permet de suivre tous mes clients. Donc je peux avoir ma liste de clients. Ici, j'en ai plusieurs, GPS démo, les cours d'ISA, ma belle entreprise. Sur l'interface d'accueil, j'ai le nombre d'abonnements qui ont expiré. Ça me permet de vite renouveler les abonnements de mes clients. Et je peux voir aussi les abonnements qui arrivent bientôt à expiration ou les abonnements qui ont déjà été désactivés car expiré. Alors la première chose qu'on voudrait faire quand on veut vendre de l'Office 365 en tant que partenaire, c'est de créer une version d'évaluation au client, à envoyer au client. Donc, je peux créer une invitation, choisir quel service auquel je vais inviter mon client. Ici, je choisis E3. Et on a une petite case à cocher tout en bas, c'est d'inclure l'autorisation d'administration déléguée. C'est-à-dire que mon client, quand il va créer sa version d'évaluation en E3, il me donnera l'autorisation d'administrer son tenant. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, ça va me créer un lien hypertexte avec un message personnalisé que je pourrai copier et coller dans un mail pour envoyer à mon client. De la même manière que j'ai créé une invitation, je peux aussi créer une offre d'achat ou uniquement pour un client existant qui a déjà créé son tenant Office 365, lui proposer de me donner uniquement les autorisations d'administration déléguée. Donc si je reviens sur ma liste de clients, je vais pouvoir pour ce client GPS démo accéder directement à ces différents portails d'administration, en particulier le portail d'administration Office 365. Donc là, je suis sur le portail d'administration de mon client GPS démo et je ne suis pas sur mon portail d'administration en tant que partenaire. Et je peux effectuer les mêmes tâches que pourrait faire mon client, à savoir lui rajouter des utilisateurs, lui affecter des licences. Et si je reviens sur mon portail d'administration délégué, je peux même directement créer des offres de services pour mes clients et leur ouvrir des tickets au support pour ses clients particuliers.
Très bien, merci beaucoup Mehdi. Et donc ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la prochaine section, donc, c'est-à-dire l'administration de Exchange Online.